franceinter.fr.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Numéro 1 de la CFDT, désormais syndicat numéro 1 devant la CGT. François Hollande vous rend hommage ce matin dans les colonnes du Point. Si la gauche socialiste avait agi comme la CFDT, dit-il, elle serait dans une meilleure situation aujourd'hui. Et pourtant, aucun candidat à la présidentielle ne se revendique de la démocratie sociale portée par la CFDT, ou alors j'en ai raté un, vous nous direz. Pire, à vos yeux, 3 des 5 principaux candidats, Hamon, Mélenchon, Le Pen, veulent revenir ou abroger la loi travail, la loi El Khomri que vous avez soutenue. Quant aux deux autres, Fillon et ses 500 000 fonctionnaires en moins, Macron et sa réforme par ordonnance du Code du travail. Comment expliquer ce peu d'influence de la CFDT sur les projets des candidats?
Ah bah d'abord parce qu'on n'a pas de candidat, ça je m'en réjouis. C'est pas le rôle d'une organisation syndicale de pousser un candidat à les élections présidentielles.
Non, tout mais d'influencer ses projets sociaux peut-être un petit peu quand
oui,
même.
Oui, bah c'est pas, on n'a pas été en manque d'influencer les projets sociaux dans les dernières années, dans les 10 dernières années, hein, pas simplement dans le dernier quinquennat. Tout simplement parce que la méthode que prône la CFDT, c'est-à-dire celle de la concertation, de faire respirer la société, de lui donner des marges de manœuvre, c'est plus compliqué à expliquer que de donner des boîtes à outils sur un certain nombre de sujet. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui va très mal, qui a des difficultés économiques, qui a des difficultés sociales, mais qui va très mal surtout en termes d'ambiance et en termes d'une forme de déprime collective. Et pour cela, il faut redonner des marges de manœuvre aux citoyens, redonner des marges de manœuvre aux corps intermédiaires, à la société civile. Et c'est plus compliqué à expliquer quand on prétend incarner à soi tout seul les candidats, la solution. Et on a aujourd'hui des gens qui se présentent et qui disent « ben voilà, faites-moi confiance, le peuple, et puis vous verrez, j'ai la solution à tous vos problèmes. » Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et donc, je pense que c'est cela qu'ils ont du mal à expliquer en disant ben, « on n'a pas les solutions à tout, voilà le cap, voilà vers quoi il faut aller. » Et pour ça, ben, il faudra qu'on discute, qu'on confronte les intérêts divergents dans la société et qu'on trouve les compromis.
Clairement, votre vision, elle ne correspond pas à celle, alors prenons, on va prendre des exemples, hein, de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron. Benoît Hamon ne croit pas, on l'a entendu, à la démocratie sociale en entreprise, au niveau de l'entreprise en tout cas. Emmanuel Macron, lui, ne pense pas que les syndicats peuvent représenter l'intérêt général.
Voilà, c'est ça. On a en fait, à eux deux, ils représentent à peu près ce qu'il faut faire.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les syndicats, le syndicaliste, la CFDT, prétend contribuer à l'intérêt général. Nous avons un regard sur la société. Nous voulons dire ce qu'il est bon de faire en termes de réduction de la pauvreté, ce qu'il faut faire en termes d'équilibre économique et sociaux. Et puis, de l'autre côté, on veut aussi pouvoir s'impliquer dans les négociations d'entreprise parce qu'on pense que nos militants, et les résultats aux élections de représentativité le prouvent, oui, nos militants sont les mieux placés pour améliorer la situation des salariés dans les entreprises.
Les syndicats n'ont jamais donné l'image de défense des intérêts particuliers, Laurent Berger ?
Si, sans doute, parce qu'on ne partage pas tous dans le syndicalisme cette vision qui est à la fois une implication, mettre les mains dans le cambouis, au plus près des réalités des salariés.
Les bons et les mauvais.
Et en même temps, non, ce n'est pas les bons et les mauvais, c'est des visions différentes, et c'est normal, c'est bien dans une démocratie. Et de l'autre côté, une participation à dire son mot sur la situation globale du pays.
La démocratie sociale en entreprise, au niveau de l'entreprise, c'est au cœur du débat public, on le voit, on l'a vu ces derniers mois avec la loi travail, la loi El Khomri. Comment pouvez-vous défendre l'idée que les salariés puissent peser d'un poids équivalent à ceux des dirigeants d'entreprise pour négocier leurs règles de travail?
Parce que nous, on vient de faire une enquête sur le travail, 200 000 répondants. L'enseignement numéro 1, c'est d'abord que les gens aiment plutôt leur travail, mais ils demandent davantage d'espace de parole, de pouvoir s'exprimer, d'avoir prise sur leur travail. Et en gros, ils demandent que le pouvoir soit davantage partagé dans l'entreprise entre ceux qui représentent les patrons et ceux qui représentent la force de travail et qui tous les jours permettent à l'entreprise de se développer. Et je sais que c'est évidemment un sujet qui irrite les organisations patronales, mais si on ne va pas vers davantage de partage de pouvoir dans l'entreprise, eh bien, on continuera de rendre le travail invisible. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui. On a le sentiment que le travail, c'est simplement un coût. C'est, je le répète, un facteur d'émancipation pour les travailleurs, mais c'est aussi ce qui crée la richesse, et donc il faut le reconnaître. Et ça, on est dans un moment où les patrons certaines organisations patronales disent « mais non, il suffit, il n'y a qu'à baisser le coût du travail, déréguler, et vous verrez, la libre entreprise permettra de rendre heureux le peuple ». Puis de l'autre côté, des politiques qui estiment que tout doit se réguler au niveau national et on ne doit jamais favoriser le dialogue social. C'est une impasse, et on est actuellement dans cette impasse, en tout cas dans le débat public.
La loi travail, la loi El Khomri, elle est entrée en vigueur, elle est entrée en application, ouais. Il y a des décrets qui sont parus.
Tous.
Il y a des résultats déjà ça? Il y a des négociations qui sont, en tout cas, qui ont été engagées?
Il y a déjà des résultats sur la partie qui apportait des droits aux salariés. Ou aux jeunes, je pense notamment à la mise en place de la garantie jeune, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on interroge, et j'étais à Arras la semaine dernière, il y a 10 jours, on interroge des jeunes qui bénéficient de la garantie jeune, eh bien les retours sont très positifs. Et puis il y a des négociations d'entreprise qui s'opèrent, il y en a sur l'organisation du travail, il y en a eu un Sanofi, il y en a eu dans les entreprises de médicaments. Pour l'instant il y a beaucoup de choses qui se passent bien, mais vous savez, quand ça se passe bien, on n'en entend pas beaucoup parler,
hein. Oui, mais on attend d'avoir d'éventuels résultats.
Moi, je ne suis pas là. On n'aura pas la capacité de dire, voilà, tel accord dans telle entreprise, il est bon, il n'est pas bon. Si les salariés, si les représentants syndicaux s'y sont engagés, que les salariés leur font confiance. Regardez ce qui s'est passé sur ces 4 dernières années. La CFDT n'a pas été avare d'engagement et de prise de risque. Les salariés, dans le privé, viennent de lui faire davantage confiance qu'elle lui faisait encore confiance il y a 4 ans. Pourquoi ? Parce que on leur a apporté des résultats. Parce que au-delà de la discussion, de notre vision de la démocratie sociale, nous, ce qu'on importe, c'est des résultats. Depuis quelques années, le compte pénibilité. 500 000 personnes en 2016 ont comptabilisé des points. Il y en a plus d'1,4 million qui vont arriver. La garantie jeune, la complémentaire santé payée par l'employeur pour tous les salariés du privé, etc., etc. Juste des résultats. Ils attendent de nous des résultats, de l'implication et des résultats. C'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est ce qu'on fait à niveau national. Pour l'instant, ça fonctionne, donc il faudra évaluer sur la durée cette loi.
Quelles sont les lignes rouges de la CFDT face aux projets sociaux des candidats? Vous venez de parler du compte pénibilité. Emmanuel Macron a dit qu'il n'aimait pas le mot. On ne sait pas trop bien s'il n'aime pas non plus le compte, l'idée ou le principe.
C'est vrai, ça. Vous avez raison.
Que vous avez compris.
D'abord, les lignes rouges, j'ai envie de dire, puisque je dis qu'on court à l'intérêt général, ce sont les lignes rouges en termes de valeurs. Je tiens à le dire, et ce sont des lignes rouges concernant l'Europe aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles... Moi, j'ai entendu un candidat hier en disant, bah voilà, je suis pour la clause Molière, il faudrait la généraliser. Voilà un exemple pour la CFDT qui est une ligne rouge. Il faut arrêter de stigmatiser des populations.
C'est l'obligation de parler le français sur les chantiers.
Voilà. Arrêter de donner le sentiment que ce serait la faute des gens, et des travailleurs en l'occurrence, et travailleurs étrangers là pour le cas précis, qu'il y aurait des difficultés de sécurité, etc. Il y a donc toutes ces questions en termes de valeur.
Carton rouge à François Fillon.
En termes d'Europe aussi, je crois que l'Europe, malgré les difficultés, il faut la réformer, il faut des politiques européennes, de convergence européenne, mais l'Europe est la solution, et tous ceux qui nous feront croire qu'en sortant de l'Europe et en mettant l'Europe à bas, on aura le bonheur demain, ce sont des menteurs. Et puis ensuite, sur les questions sociales, moi, je crois que les lignes rouges, c'est évidemment tout ce qui serait remis en cause des droits qu'on a obtenus pour sécuriser les parcours des salariés tout au long de leur carrière professionnelle, ce seront des lignes rouges, le compte pénibilité, mais aussi le compte personnel d'activité. Et puis tous ceux qui considéreront que le syndicalisme, c'est juste un outil pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour gueuler, et pas un outil de proposition et d'implication dans des négociations d'entreprise. Voilà. Donc, il y a beaucoup, vous aurez compris, que la CFDT, elle n'a pas de candidat. Et beaucoup de militants de la CFDT aujourd'hui sont un peu dans un sentiment de désarroi. Mais pour autant, il ne faut pas s'abstenir. Il faut participer. Nous, on ne donnera pas de consigne de vote. Chacun, sauf contre le Front National, chacun après prendra ses responsabilités. Mais je crois qu'il faut bien lire les programmes.
Vous n'avez pas de candidat, mais ça ne vous empêche pas de vous intéresser, d'avoir des contacts, etc. Vous avez compris, par exemple, comment on est arrivé à l'idée que Emmanuel Macron a défendu là récemment, et ce qui en contradiction avec ce qu'il disait quelques mois auparavant, sur une discussion par ordonnance, une décision par ordonnance de réforme du Code du Travail.
De toute façon, c'est même pas impossible également.
Ah bon ?
Pour une raison simple. Aujourd'hui, depuis la loi Larcher, en 2007,
oui.
Pour réformer le Code du Travail,
consulter les syndicats.
Il faut proposer aux organisations syndicales et patronales d'ouvrir une négociation.
Il a parlé d'une consultation rapide, je crois.
Oui, alors c'est ça qu'il faudra préciser.
Avant d'une loi,
en tout cas,
avant d'une autorisation légiférée par ordonnance.
Vous savez, de toute façon, il faut garder son calme parce qu'il y a la campagne, puis ensuite il y a l'exercice du pouvoir et de la responsabilité. On le voit d'outre-Atlantique, c'est deux choses très différentes, entre guillemets. Tout ce qui donne le sentiment qu'il faudrait de la sueur et des larmes, et pas de la concertation et des idées positives pour les salariés, nous fera réagir. Moi, l'histoire, on gouverne par ordonnance, je suis pas fan du tout.
J'ai bien compris. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, avec nous jusqu'à 9h. D'autres questions et les appels des auditeurs dans quelques minutes après la revue de presse.